émission spéciale en archive et en reportage.
De 21h à 22h.
Voilà, de 21h à 22h. Je vais le marquer tout de suite parce qu'après.
France Inter. La différence.
15h04 sur France Inter. Je vous laisse avec Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, et tout de suite le répondeur.
Ma mémoire n'est pas défaillante, elle se souvient très bien que M. Klusmann était pour l'intervention armée de George Bush en Irak. Alors, entendre ce monsieur sur France Inter, il critique la Chine et tout ça, mais il oublie qu'il a cautionné indirectement, intellectuellement encore, une guerre sanglante qui est toujours présente et qui tue chaque jour. Alors que France Inter reçoive des gens comme ça, ça me déçoit un peu. Voilà, merci pour tout. Merci surtout à l'émission de Daniel Mermet. Ça nous donne une envie de vivre et de combattre chaque jour. Merci, au revoir.
Bonjour, là-bas, si je suis, c'est Fabien Perrier de l'Humanité Dimanche à l'appareil. J'espère que vous êtes au courant qu'aujourd'hui, en Grèce, se passe une manifestation énorme. Les indignés, depuis le 25 mai, sont sur la place Syntagma. Ils ne lâchent rien. Les AG populaires, comme ils disent, sont de plus en plus occupés. Les débats assez riches, très riches même. Et aujourd'hui, avec les travailleurs grecs, il dénonce l'austérité et le deuxième mémorandum. Donc voilà, mais bien entendu, si vous voulez en savoir plus, dans l'UMA tous les jours, dans l'Humanité Dimanche chaque semaine. Allez, à bientôt.
Bonjour Daniel Mermet, c'est Claude de l'Ariège là. J'appelle, j'écoute l'émission sur les mineurs. Je trouve que tu oublies de dire quand même une chose, que c'était pas que des grèves des mineurs, il y avait aussi la grève des électriciens. C'était une grève qui devait être effectivement insurrectionnelle, au pas pour faire venir les Russes, mais parce que les communistes voulaient faire tomber le gouvernement de l'époque. Parce que, évidemment, ça leur plaisait pas, les choses qui évoluaient. Ils auraient bien aimé rester dans le cadre de la sortie avec De Gaulle et tout ça. Donc, moi, je me souviens bien, à l'époque, dans le secteur électrique, c'est les cadres qui ont fait tourner les centrales pour que la France soit pas dans le noir complet. Donc, le combat des mineurs m'a toujours, moi aussi, ému. Mais on peut pas cacher quand même que ces grèves de 48 étaient des grèves politiques et non pas des grèves sociales. Voilà, merci.
C'est Isabelle à Paris. Je viens d'écouter votre émission sur la grève des mineurs de 48. Je suis pas une groupie inconditionnelle de Daniel Mermet, mais alors là, vraiment, chapeau. J'ai trouvé ça très 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 intéressant. J'ignorais totalement ces faits. Et c'est également très très émouvant. Merci.
Claudine de Lille, merci pour ces témoignages de mineurs et de la vie telle qu'elle était dans le bassin minier. Je ne saurais trop conseiller à tous, habitants ou touristes, de se rendre au centre historique minier de Leeuwarden, dans le Nord, où quelques mineurs peuvent encore parler de leur expérience de la mine dans un décor authentique. N'oublions pas non plus les femmes, femmes de mineurs ou femmes de la mine. Bravo pour cette émission.
Je viens d'entendre l'émission de Daniel Mermet. Et je suis encore terriblement émue parce qu'en 1948, mes parents, nous étions quatre enfants à la maison, des petits, moi j'avais 11 ans, eh bien on a accueilli un petit enfant qui venait, un gosse de mineur, parce que bon, mais on est des ch'tis aussi, hein, enfin la moitié de ma famille l'est, je suis encore très émue. Merci à Daniel et qu'il continue. Bravo, j'ai que ça à dire. Et merci à lui. Je ne connais plus le prénom de ce petit. Je crois qu'il s'appelait aussi Daniel, mais peut-être que je confonds, vous savez. Il y a quand même un moment. Au revoir et que tout aille au mieux. Gardez un courage d'enfer, comme moi. Je vous embrasse tous.
Voilà, merci pour ce message. Je vous dirai pourquoi ça me touche personnellement beaucoup dans la suite de ces reportages et de ces rencontres avec ces vieux mineurs, on peut dire, qui ont participé à la grande grève des mineurs de 1948. Grève particulièrement violente, très très dure, une répression monstrueuse, à l'issue de quoi 3000 de ces mineurs furent licenciés. Ça a été une tragédie terrible, 6 morts. Enfin, on a déjà évoqué tout ça hier. On va à nouveau revenir là-dessus. 3000 mineurs licenciés et après des années de lutte, d'entêtement, ils ont fini en mars dernier par être reconnus et par avoir une promesse d'indemnisation par la cour d'appel de Versailles. C'est donc une victoire formidable qui a été saluée à l'époque quand même, il y a quelques mois, mais voilà qu'il y a quelques jours, le ministère de l'économie a frappé cette décision d'un pourvoi en cassation. Donc c'est remis en partie en question. Mais la victoire, elle est cette victoire sur l'oubli, on l'a dit hier, cette victoire sur le mépris, et une occasion pour nous et pour tous de revenir sur cette page héroïque des luttes sociales dans notre beau pays.
Actualité française.
Dans le Nord, la grève des mines continue. Le charbon ne sort plus.
14 octobre 1948.
Et faute de combustible, on peut craindre que la production française soit menacée d'arrêt. De graves bagarres ont opposé grévistes et forces de police devant le puits numéro 5. Il y a eu des blessés.
La grève, elle était juste, hein. On réclamait notre dû.
De plus, il y a eu un mort étouffé par la foule. Un cortège compact et silencieux a accompagné à sa dernière demeure la malheureuse victime.
Ben oui, c'était mené par les communistes, mais il n'y avait qu'eux qui pouvaient. Il n'y avait qu'eux qui nous écoutaient. Hein, c'est ça qu'il faut dire, mais il faut voir les fiches de paye. Et comme ça, on a tout compris. Moi, quand j'ai vu la première fiche de paye, j'ai dit, de quoi acheter du pain, hein, c'est tout.
Les pauvres mineurs, ils sont vraiment démunis, ils ne sont pas armés. Ils ont contre eux l'armée, etc., avec des automitrailleuses. Le rapport des forces est totalement disproportionné, quoi.
Le problème de la grève actuelle commande l'attention nationale. Le gouvernement doit y faire face avec lucidité, avec humanité, avec décision.
C'était la guerre, hein. C'était la guerre. La guerre décrétée par le gouvernement contre les mineurs.
Et c'est justement quand on a des rapports de force aussi disproportionnés qu'on se bat finalement contre tous. C'est un combat désespéré, quoi.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry. La grève des mineurs de 1948.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors voilà, là je me trouve à Neuilly-les-Mines, en plein cœur de l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, à une vingtaine de kilomètres de Lens. Là, je me dirige vers une des anciennes fosses d'extraction de nœuds, là d'où était extrait le charbon jusque dans les années 60. La fosse est aujourd'hui entièrement désaffectée. Toutes les installations minières ont été démontées. Je crois que ça sert d'entrepôt pour les bus maintenant. Mais c'est là que travaillaient Éloi Vasseur et Cyril Fruchard en 1948. Ils avaient alors une vingtaine d'années. Ils ont connu les grandes grèves de 1948. Des grèves très dures, qualifiées d'insurrectionnelles par le gouvernement socialiste de l'époque et qui ont été réprimées dans le sang. Suite à ces grèves, 3000 mineurs avaient été licenciés, emprisonnés, expulsés de leur logement et bannis des houillères nationales. Et il faudra attendre ces jours-ci pour que la justice réintègre 17 de ces anciens mineurs dans leurs droits en reconnaissant le caractère illégal de ces licenciements. Formidable victoire qui nous a donné envie d'en savoir un peu plus sur ces grèves effacées de la mémoire nationale. Alors Éloi Vasseur et Cyril Fruchard, eux, n'ont pas été licenciés suite à ces grèves. Ils ont repris le travail et ils sont devenus porions, c'est-à-dire chefs au fond de la mine. Alors là, on passe devant le musée de la mine de Neuilly-les-Mines, la mine Image, ça s'appelle. Et l'ancienne fosse de nœuds se trouve juste derrière.
Alors, grève insurrectionnelle ou non, y avait-il ou non la main de Moscou dans la voix et dans le cœur des mineurs de 1948 qui se sont produites non seulement à Lens, mais dans d'autres bassins miniers. Mais c'était exclusivement les mineurs qui étaient en grève, qui furent en grève pendant ces longues journées d'octobre et de novembre 1948. Grève insurrectionnelle ou non ? On voit dans les messages du répondeur que la question se pose toujours. C'est bien vieux, c'est des histoires anciennes, ces pages sont tournées, encore que, on voit que pour ce qui concerne la reconnaissance du droit de ces mineurs, c'est un combat extrêmement difficile et le pouvoir politique en France, l'État, est extrêmement dur envers ces mineurs qui pourtant furent les héros de la classe ouvrière en leur temps. Et on évoquait, cette auditrice évoquait, en commençant, comment elle avait dans sa jeunesse souvenir de jeunes mineurs, d'enfants de mineurs qui avaient été accueillis dans la région parisienne, dans des familles. Effectivement, à l'époque, il y a eu un grand élan de solidarité envers ces mineurs qui faisaient une grève insurrectionnelle ou non. Je ne crois pas que tout le monde se posa la question, mais en tout cas, la solidarité a admirablement fonctionné. Et notamment dans la région parisienne, beaucoup de familles ont accueilli ces enfants de mineurs via la CGT, via le Parti communiste, mais via aussi les églises. L'église catholique était implantée fortement encore dans ces époques, dans la banlieue rouge, on appelait ça la banlieue rouge à l'époque, et il y avait tout un courant de prêtres ouvriers et de solidarité générale qui avait fait que beaucoup de familles, dont la mienne, j'en parlerai peut-être plus précisément plus tard, nous avions reçu ces enfants de mineurs qui avaient, eh bien, à l'époque, le même âge que nous. C'est une des raisons qui nous tiennent ensemble, qui nous tenaient ensemble et qui nous tiennent ensemble. Jusqu'à 16h, dans la basse, j'y suis, grève des mineurs de 1948.
Annie Cordy.
Tandis qu'ils sont tout au fond du puits.
1961.
Nuit et jour, là-haut, nous attendons leur retour. Sur leur front, noirci par la sueur et le charbon, les étés jamais n'ont le temps de s'arrêter. Les gueules noires savent qu'il faut passer la vie sur le carreau. Au fond de la mine, bien souvent, il rêve à leur premier printemps. Au chemin, noyé dans la brume du matin,
actualité française.
Août 1944.
Octobre 1948.
Une immense flambée d'allégresse populaire s'étend sur le pays libéré. Le cauchemar est fini. La patrie va revivre. Hélas, les feux de joie s'éteignent vite. Le reflux de l'occupant a laissé à nu trop de ruines. C'est alors que la France en péril lance son premier appel. Pour reconstruire la France, il faut d'abord du charbon. Et les quelques 320 000 mineurs répartis dans les 7 bassins houillers français répondent aussitôt présents. Un magnifique esprit d'émulation souffle dans le monde souterrain. Les mineurs savent que le sort de la France est entre leurs mains. Et peu à peu, les conditions d'exploitation s'améliorent. Dans certains puits, la mécanisation de l'abattage ouvre au dur métier de la mine des perspectives nouvelles. La machine est en marche, la vie reprend dans les usines, la victoire économique est imminente.
Vasseur et Loi.
Et vous, vous appelez comment?
Fruchard Cyril.
On est du même âge, parce que lui est du mois de juillet. Non, c'est moi du mois de juillet. Mais lui est du mois de septembre, 1924.
Alors, oui, 87 ans.
Alors, on a fait 33 ans de service là-dedans.
Hein. Ici, là, cette fosse-là, c'est quelle fosse ici?
C'est la fosse 3 de nœud. Et moi, j'étais agent de maîtrise une nuit, j'étais pour les réparations. Agent de maîtrise, c'est contremaître. On a démarré comme des bleus, quoi. Hein, c'est vrai. Hein,
vous avez commencé à quel âge?
À 14 ans, ici. Et alors, nous, on est venus à 14 ans, j'étais en 39, en 1939. Aussitôt que j'avais le certificat d'études, hop. Oh. Parce que là, à ce moment-là, il n'y a pas de chômage. Hein. On ne parlait pas de chômage. Hein. Au contraire, on demandait des gens. On allait les chercher. Moi, j'ai connu un garde, mes parents. Mais quand est-ce que tu vas embaucher ton garçon? Mais j'avais que 13 ans. Hein. Alors, c'est vrai, hein. Oh. Un garde qui me dit, il a demandé à mon père. Alors, on est descendu comme ça. Et puis, après, on a pris l'habitude. J'étais père en fils, et puis j'ai tout. Hein. Ensuite, à 18 ans, on partit à l'abattage. Puis ce qui se faisait drôle, parce que dans la galerie, au fond, j'étais tout droit, la galerie principale. Vous voyez tous les mineurs partir au loin, comme la route nationale. On n'a pas eu peur, mais enfin, on n'était pas tellement rassurés. Hein? Des fois, on avait un kilomètre, deux kilomètres à pousser les verlets dans la main. Mais on mettait la lampe dessus, puis on le voyait. C'est une question d'habitude. Il ne fallait pas rigoler, même au fond. Hein? L'ingénieur... Et même les porions, hein, j'étais toujours derrière les ouvriers. Hein. Et le rendement, attention, le fameux rendement, hein, parce que
produits, hein.
Ouais, c'est pour ça que juste après la guerre, pour relever la France, on a commencé à faire l'abattage ici, il y avait un grand panneau là.
Sur ce bâtiment là.
Coué là-dessus pour les 100 000 tonnes. Vous savez, une grande aiguille. Alors, soit l'aiguille elle baisse ou elle monte, ça va l'aiguille. Alors celui qui a fait vous un mot. Il n'y a plus de mètre carré, ils ont offert un vélo.
Pour le meilleur ouvrier, celui qui avait fait le plus de charbon, il avait un vélo.
Il avait un vélo. C'est comme ça que ça marchait. Nous, ma famille, c'était tout mineur.
Tous des mineurs?
Ah, oui, tout mineur. Ouais. Mais ils sont tous décédés, c'est dit, quoi. Mais comme moi, j'ai plus de famille, si vous voulez. Tous mes frères, mon père, et puis mes oncles, ils sont tous morts. C'est dit, quoi. Ils sont tous morts, c'est dit, causé, hein, ouais.
Hein? Les derniers Indiens, les derniers indigènes de la mine, voilà leur voix. Si on bossait bien, on mettait sa vie en danger, sa santé, ben parfois on pouvait, mais c'était pas sûr, gagner un vélo. C'est cette mémoire-là que nous avons tenu absolument à enregistrer, pour que ça persiste, ça demeure. Et puis, à travers, évidemment, cette lutte et cette histoire qui a duré 63 ans qu'on a évoqué, cette victoire finale des mineurs reconnue par l'illégalité de la punition qui a été la leur, c'est-à-dire les licenciements. On va y venir, mais d'abord on est avec Éloi et Cyril.
Bah là, figurez-vous, ici c'était les bureaux. Hein.
Là, sur la droite, ce bâtiment-là, c'était les bureaux?
Les bureaux, l'ingénieur, et puis tous les porions qu'on appelle, c'était les contremaîtres, quoi. Hein. Il faut se voir, il y a jusqu'à 400 bonhommes, hein, tu te rappelles? Ah oui, parce qu'au matin, des fois, il y avait 400 matin, puis autant l'après-midi. Hein. Puis après, il y avait tout un groupe de nuit qui fait les réparations, puis le soutènement, quoi. C'est comme ça fait marcher.
Et alors, vous arriviez le matin, vous passiez cette grille, là, ici?
Oui, on partit tout de suite là, au bain-douche, là.
Alors, ici, là, ce bâtiment?
Tous les bâtiments, là, c'est les bains-douches. Alors là, vous expliquez, bon.
Alors là, on fait le tour. Oh là là, il y a des trous dans le bâtiment.
Ah ouais, c'est vieux. Venez, rentrez, ça va être pas le bruit. Oh! Toutes les poutrelles qui sont là. Mais figurez-vous, il y avait tout le long ainsi. Il y avait des moulettes, des petits trous, avec un câble ou une corde, avec un crochet en bas, là. Alors en arrivant, on descendait. Le crochet, avec ses vêtements sales. Alors, on descendait, on s'habillait, puis après, bon, on remontait nos vêtements propres, puis là, on partait,
Ça s'appelait la salle des pendus, c'est ça?
C'était la salle des pendus. Hein. C'était tout des crochets, au moins. Peut-être 1000 crochets avec des cordes. Et là, quand on remontait du fond, par elle, on descendait, on mettait les vêtements propres à côté, puis on mettait les vêtements sales, parce qu'ils étaient tout en sueur, il était tellement chaud, 30 degrés, 35 des fois.
Hein. Au fond de la mine?
Au fond de la mine. Alors, comme c'était fort chaud aussi, le lendemain, les vêtements étaient secs. Hein. Ah oui, c'était sec. Bon, des fois, on était 2-3 jours les mêmes vêtements. Hein. J'avais une odeur. Et tout le long, oui, il y a des carrelages, là.
Ouais.
C'était tout des douches. Jusqu'au bout. Alors, les anciens, les vieux, j'étais par ici. Et nous, les jeunes, j'étais séparés, nous, les enfants. Là, j'ai tous les jeunes. Alors, il y a des fois 500 là-dedans. Hein. Il faut se laver, hein, parce que c'est tout là qui a fini, hop, il n'y a qu'à le remplacer, quoi. C'est ainsi. Pour sortir, quoi, tout nu, quoi.
Aujourd'hui, la bataille du charbon est devenue un conflit social d'une extrême gravité.
Actualité française.
Sur les bassins houillers, la grève s'étend et les frappes l'un après l'autre de paralysie.
Novembre 1948.
Très vite, le conflit entre dans une phase critique. À Béthune, des échauffourées mettent aux prises des milliers de grévistes et les groupes de CRS qui ont pour mission d'occuper le bassin. Situation plus dramatique encore dans le bassin de la Loire. À Firminy, la possession du puits Campbefort se dispute au cours d'une véritable bataille rangée. En présence de ces graves événements, le gouvernement fait procéder à l'occupation des mines. Mais la machine à produire le charbon reste inerte. L'effort de redressement sera-t-il réduit à néant? Le charbon est le nerf de l'économie française. Cette primauté fait la force du mineur, mais elle engage aussi sa responsabilité. Au-dessus des opinions, au-dessus des revendications, si légitimes soient-elles, il y a la France qui veut vivre.
Vous avez connu les grèves en 1948?
C'est-à-dire, mais, oui, nous connus, mais j'étais déjà là-dedans, hein, en 48, il y avait une quinzaine, 20 ans. Hein. Ah oui, parce que là, attention, tout était fermé. Hein. Il y avait ceux qui avaient un papier pour rentrer. Vous savez, même les chefs, ils avaient le droit de rentrer, mais on ne descendait pas. Hein. Parce que là, il y avait les délégués et puis tout le groupe des grévistes. Alors, pas moyen de passer. Hein. Et de temps en temps, ils nous amenaient ravitaillement parce qu'il n'y avait rien à manger. Alors, il y avait un boulanger qui me donnait du pain. Tout, ça. Tout le monde s'est installé dehors, attention, dehors. Hein. Alors, on donnait du pain, de l'eau, ou bien du vin. Hein. Ouais, c'est comme ça que ça marchait. Mais là, il n'y a personne qui est passé. Hein. À part l'ingénieur, des fois tout juste. Hein. C'était tous les grévistes qui se mettaient dans les bureaux. Hein, il ne fallait pas broncher. Hein. Oh, ouais, ouais.
Vous étiez gréviste?
Ben, nous, on était obligés d'être grévistes. Hein. On n'avait pas le droit de passer. Hein. Même si on n'est pas là, ben, restez chez nous. Hein, parce que c'est pas la peine de chercher la bagarre. Parce que premièrement, il fallait pas traîner. Là, hein. À qui voulait passer, il te poursuit. Hein. Ah ouais, leur poursuivait. Hein. Ah ouais, pas le droit d'entrer. Hein. Non. Même les piquets de grève, il n'a pas le droit d'entrer, attention. Hein. Les piquets de grève, ils se trouvaient derrière dans la rue. Hein. C'est ça, si. Parce que là, il n'y a personne. Hein.
Et vous vous souvenez pourquoi il y avait eu grève à cette époque?
Ben, souvent, j'étais en grève, c'était toujours pour le salaire. Il faut toujours faire grève pour avoir 4 sous, comme on dit. Hein. J'étais arrivé souvent des grèves, c'était toujours pour les salaires. Hein. Ah ouais. Il manquait toujours quelque chose, vous la reconnaître. Hein. Du pain, du pain, mais il faut avoir des sous pour avoir du pain. Il y avait certains coins, pas ici en eux, hein, mais comme on a vu, les corons, les routes, ils étaient fermés, ils avaient posé des grilles. Les compagnies, les mines, ils avaient mis des grilles. Et quand il y avait un coup dur, ils fermaient les grilles.
Ah.
Tu te rappelles quand il y a eu des grilles dans les cités à Mazaguerpe,
ah, ouais.
À Bully.
Ah, ça aussi, il y avait des cités fermées.
Oui. Alors quand il y avait une grande grève, ben, les chefs commandaient aux gardes d'aller fermer les grilles. Comme ça, les mineurs, ils n'étaient pas prisonniers, si vous voulez, mais ils ne pouvaient pas sortir.
Ah oui, hein.
Il y a un moment, les grilles, je me dis, c'est des prisons dans ce coin-là. Non, non, j'étais fait exprès. Ah oui.
Les grilles pour maintenir les mineurs dans leur coron, dans leur quartier. Témoignage de Cyril et Éloi. Et des précisions avec Rolande Trempé, historienne, spécialiste de l'histoire des mineurs.
Rolande Trempé, donc, historienne
et spécialiste de l'histoire des 8 heures. La grève de 48 est une grève purement de mineurs. Parce qu'il y a eu les grèves de 47, auxquelles les mineurs, bien entendu, avaient aussi participé. Mais ils n'avaient pas été les seuls. Tandis que la grève de 48, c'est une grève spécifique des mineurs. Et elle gagne tous les bassins. Et elle est provoquée par un des points essentiels qui concerne vraiment les mineurs, c'est le problème de la sécurité. De la sécurité sociale minière. Et c'est le problème du statut des mineurs. Or, le statut des mineurs avait été une des grandes conquêtes à la libération obtenues par les mineurs, qui avaient été un groupe professionnel qui avait pris part très très largement à la résistance. Alors, le statut du mineur, c'était un statut très très important, parce que c'était la première fois où tous les droits que les mineurs pouvaient avoir pour protéger leur santé en particulier, et leur carrière, étaient étroitement définis. Or, les décrets Lacoste qui vont provoquer la grève portent atteinte justement au statut des mineurs. Et c'est ça le vrai motif de la grève. Donc, ça concerne, si vous voulez, la grève, elle concerne tout le monde. C'est un problème de retraite minière qui est posé. Et c'est pour ça que ça va donner lieu à de telles manifestations qui ont une telle ampleur, parce qu'elles concernent les mineurs en activité, mais aussi les veuves de mineurs qui touchent une partie de réversion de la retraite, mais aussi le mineur retraité, et voilà. Alors l'atteinte à la sécurité sociale minière, c'est tout ça qui est en cause. Alors c'est elle qui est directement atteinte par les fameux décrets Lacoste, qui est un ministre du travail socialiste par-dessus le marché. Alors, dans ce gouvernement, autrement dit, le ministre de l'Intérieur, c'est Jules Moc, socialiste, et le ministre du Travail, etc., c'est Lacoste, socialiste. Alors vous voyez tout de suite comment la grève prendra un caractère politique, en plus du reste. Puis alors, il y a un anticommunisme absolument effréné de la part de Jules Moc, qui voit un complot organisé au service des Russes. Parce que les dirigeants de la Fédération du sous-sol sont, sauf un, et encore, j'en suis pas sûr, ils sont presque tous communistes. De là à imaginer que la Fédération du sous-sol est au service de... Et c'est ce qu'il va faire. Alors, il est d'un anticommunisme incroyable. Et c'est ce qui explique la virulence avec laquelle il va intervenir.
Il y avait eu le coup de Prague aussi, juste avant, non ?
Ben oui, il y a eu le coup de Prague. Tout le monde craint à nouveau un coup de Prague.
La grève des mineurs, commencée il y a un mois, est près de finir.
La chaîne nationale.
Dès le début de la semaine prochaine.
5 novembre 1948.
Nos charbonnages fonctionneront à plein.
Robert Lacoste, ministre de l'Industrie.
Cette perspective porte à son comble la rage de destruction et le désir de représailles des plus fanatiques et des plus orgueilleux parmi les dirigeants grévistes. Chassés des puits et de toutes les installations dont ils défendaient l'accès à tous ceux qui auraient pu en empêcher la détérioration automatique, ils se livrent maintenant à des actes de sabotage direct. Cette misérable agitation d'hommes qui se sentent perdus ne doit faire hésiter personne. Et le gouvernement a le devoir de protéger ceux qu'elle menace. De nombreuses arrestations ont été opérées pour entrave à la liberté du travail. D'autres pour voie de fait et actes de représailles. Il est inutile de dire que ceux qui ont attaqué les logements de leurs camarades de travail seront punis par la justice avec une exceptionnelle sévérité. Ils ont en effet, dans la réprobation publique, une place encore plus grande que celle des saboteurs qui, eux aussi, seront sanctionnés durement.
Alors voilà, là on se trouve à Los Angeles, à quelques kilomètres de Lens, et on va aller retrouver Madame Colette Lebrun, qui fait partie des 17 plaignants dont les licenciements ont été reconnus nuls par la cour d'appel de Versailles récemment. Madame Lebrun est une ayant droit, parce que son mari est décédé, voilà, 37 ans. Alors, on arrive dans une petite cité. C'est toutes les mêmes maisons sur un étage. Voilà, ça doit être celle-là avec la porte rouge. Allez, on souhaite.
Ah. Quand j'arrive.
Bonjour.
Ah, ça
ça y est, vous venez arriver. Ah ben c'est bien, c'est bien. Avancez par là.
Alors on arrive chez Colette Lebrun. Mais il faut revenir un petit peu sur la voix de Robert Lacoste qu'on entendait, le ministre de l'Industrie de l'époque, de ce gouvernement de 1948. Robert Lacoste illustrera par la suite en Algérie, dirigera une répression particulièrement violente dont la torture sera un des aspects, la torture systématique. Revenons à Colette Lebrun, donc, vous avez compris, qui fait partie de ces ayants droit qui, au terme d'une très très longue lutte, ont fini par faire reconnaître et leur dignité et leurs droits.
Les grèves de 48, les mines étaient occupées. C'est impressionnant quand même quand on voit la police à la mine, au lieu de travail quand même. Et alors on était... Mon mari a été arrêté bêtement parce qu'on était allé à une... On avait un de nos copains qui faisait... une réunion, on était allés, et puis avec un autre qui était comme nous, on se dit on va revenir sur le côté, comme ça il n'y a pas d'ennui, on rentre chez nous. Ah oui, le lendemain, il était arrêté avec tous les autres. Il est embarqué, quoi, il est allé au piquet de grève, et puis hop, à Béthune. Sans jugement, sans rien du tout, c'est après que ça a été jugé. Il fallait voir ça, c'était de la folie de toute façon, on ne peut pas dire autrement. Alors quand même, il y avait une histoire d'arrêter la cellule communiste quand même aussi, hein. On n'était pas des fous, on n'était rien de tout ça, on était des gens calmes. Hein. Et puis, ah ben oui, c'était mené par les communistes, mais il n'y avait qu'eux qui pouvaient. Il n'y avait qu'eux qui nous écoutaient. Hein, c'est ça qu'il faut dire, mais il faut voir les fiches de paye. Et comme ça, on a tout compris. Ben, quand j'ai vu la première fiche de paye, j'ai dit, de quoi acheter du pain, hein, c'est tout. Hein. Ouais. Et il fallait voir la prison de Béthune, hein. C'était plein, plein, plein. Il y avait des bus pour aller les voir. On allait chercher l'autorisation de les voir la veille. Et le lendemain, on allait à la prison. Vous auriez vu ces bus. C'était fou. Et quand vous voyez les premiers mineurs qui repartent au travail avec un policier ou un soldat et le fusil, c'est quand même terrible. Ah oui, c'était une ambiance, hein. Une fois, on allait avec... on était trois copines, on va dire, que les maris faisaient grève. Nous voulions la partie, mais ils avaient recommencé à travailler, certains. Et alors, nous, tranquilles, on n'était pas en train de broyer, rien du tout, on partait faire un tour. Et il y en a un qui revenait de travailler, il sort sa hache, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'allait pas l'attaquer, pauvre homme. Et il dit, n'approchez pas. Et aussi vite, il y a quelqu'un qui l'a dit, lui sans doute, et on a passé au tribunal.
Vous ?
Oui, 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 oui. Je n'ai pas été embarquée, mais je suis passée au tribunal. J'ai eu 8 jours avec sursis. Et il a pensé qu'on venait l'attaquer, en somme, puisqu'il venait du travail, alors qu'il y avait encore les maris qui étaient en prison. Ça crée une situation comme on avait. Tout le monde pouvait dire quelque chose de quelqu'un. Si ça pouvait passer, ben, c'était bien. Mais il y avait plein de dénonciations, hein. Nous, c'était une dénonciation bête, hein, parce que cet homme-là, on n'allait pas l'attaquer du tout. Alors, on n'était pas des voyous, hein, pas du tout, hein, comme on a voulu un petit peu le faire croire. Hein, pas du tout. Des gens bien tranquilles, bien embêtés. Alors mon mari, donc, a fait son mois de prison, puis après, dehors. Hein. On est prié de quitter le logement, bien sûr, tout ça. Hein, oui, oui, oui. Donc on a déménagé, on est venu habiter à Le Sangolais, une maison... Dans les champs, là, sans eau, sans électricité. Enfin, il y avait un puits, mais il était tari. Et puis, on est resté là un moment. Donc, j'attendais mon troisième enfant. Ah oui, on avait le jugement qu'il fallait partir. Et défense, après, il s'agit de trouver du travail. Après, parce que vous ne pouvez pas travailler sur le terrain des mines. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici, sinon, le terrain des mines ? C'est là que c'est dur. Hein. Et puis, ça dure un temps. Hein. Et alors, on se retrouve avec rien, quoi. Oui, comme on dit, la vache enragée, on en a mangé. Hein.
Des fleurs qui sentent la sueur, c'est le jour et la nuit.
pompes épuisées, porter, nettoyer, astiquer, récurer, enfin souffler. Trouver le courage de pompes épuisées, porter, nettoyer, astiquer, récurer, enfin souffler. Femme de mineur, femme de labeur, sans rancœur, donne leur cœur. Femme de mineur,
femme de seigneur,
femme de seigneur, sans rancœur, donne leur cœur. Sorte pour laver devant chez soi. Telle est la loi. Faire couler chez son voisin le temps passé, des gros chagrins, des petits câlins. Femme de mineur, femme de labeur, sans rancœur, donne leur cœur. Femme de mineur,
femme de mineur,
femme de seigneur,
femme de seigneur,
sans rancœur, donne leur cœur.
Bah qu'est-ce qu'on dit les gars?
Tu veux pas avancer?
Alors vous, alors vous êtes guide ici au musée de la mine, oui, c'est ça? Oui. Rappelez-moi comment vous vous appelez.
Monsieur Duty. Avant, on respectait l'outil de travail, hein, c'est-à-dire que une mine, bon, qui était en grève, on laissait passer du personnel pour entretenir la mine. Mm-hmm. Hein, bon, c'était des, bien souvent des porions. Bon, ces gens-là étaient là, bon, il fallait tourner quartier, remplacer les bois qu'il fallait changer, s'occuper des pompes, l'exer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au fond, il y a de l'eau. Hein. Voilà. Mais par contre, en 48, presque tout de suite, pour pas qu'il y ait du personnel qui descende, ils ont balancé des berlines dans le puits. Hein.
Ils ont balancé des berlines
dans le puits. Ah ouais, pour escater le puits. D'ailleurs, la troupe, bon, il y a deux sortes de cloches. La troupe est intervenue d'abord pour faire bouger le piquet de grève, pour laisser entrer le personnel qui voulait travailler.
C'est la version
des ouvriers, des syndicats, c'est normal. Bon, puis par contre, il y a une autre version. Il paraît que la troupe est intervenue et les CRS à partir du moment où il y a eu les berlines qu'on a jetées dans le puits. Parce que ça a été assimilé et c'était du sabotage. Hein.
Pendant les grèves, là, c'était au spécial à ce moment-là, vous savez. Alors, ils devaient remettre en route la police de la Bourse. Et les femmes de mineurs qui étaient par là, et c'est encore pire que les hommes. Ils ont parti dans la nuit, ils ont ouvert les barrières, par haut, en bas, au glissage, on appelle ça. Ils ont cassé les cadenas, ils ont poussé les berlines dans le puits. Hein. Puis les mineurs devaient recommencer, et le lendemain. Ils ont dit, bah, c'est pas la peine de pouvoir retourner chez vous, on peut pas faire marcher, parce que le cage, il tombe plus, les berlines étaient tombées dans le puits. Et moi, j'ai de la famille, une famille d'un oncle. Il a été balancé de la mine. Alors l'ingénieur, il dit, écoute, c'est pas toi, il dit, je le sais, mais il y a quelqu'un de la famille qui était dans le groupe. Alors je peux pas te reprendre. Pourtant, j'ai un chef de taille. Alors il a été obligé de partir. Alors il a été chômeur pendant 5-6 mois.
Votre oncle?
Oui. Et ensuite, ils ont demandé, ils ont été rembauchés dans là-bas, à Rambert. Il y a plusieurs. Ils ont été obligés de partir à Rambert pour retravailler, pour finir leur carrière, parce que des fois, il y avait 25 travailleurs déjà.
Parce que soit eux, soit des membres de la famille avaient participé,
oui,
à ces grèves.
Ils ont participé à l'action, comme on dit. Et bien, ils ont licencié. Pourtant, des bons ouvriers. Hein. Hein. Il y a eu de la chance quand même de pouvoir faire sa carrière. Hein. Parce que s'il y avait fait que 20 ans, il n'y a pas eu grand-chose comme retraite. Hein. Alors, ils ont été obligés de déménager. Hein.
Ils ne retrouvaient pas de travail dans le coin?
Non. Il n'y a pas de travail. Il n'arrivait pas à être embauché dans les mines. Parce qu'il était le groupe de nœuds. C'est, la bourse était le groupe de nœuds. J'étais tout noté au rouge, tous les gars. Tous les gens comme ça étaient nommés au rouge.
Au
et
rouge.
Tous les communistes. Eh bien, il n'y a pas de pitié. Hein.
Et vous avez été au Parti communiste aussi ou...
Non, moi, je n'ai pas pu, hein, je ne peux pas. Parce que j'étais nommé surveillant jeune. Il fallait pas parler des syndicats, hein, au contraire. Parce qu'on aurait été balancé aussi, hein, attention. Ah oui. On ne nous aurait pas pris, premièrement. On ne m'aurait pas pris hein, comme agent de maîtrise. Hein. Alors, j'ai eu du pot. Je ne savais pas que mes oncles étaient dans le parti. Sans quoi, je n'aurais jamais été nommé. Hein. Je n'ai jamais dit que c'était mes parents, là, et mes oncles. Là. C'était des frères à ma mère. Quoi. Il aurait su que j'étais parti de la famille. C'était ainsi. Hein. Il aurait dit, ben, c'est un communiste.
Si. Pour la troisième fois en 3 semaines...
La chaîne nationale...
Je reprends la parole...
3 novembre 1948...
C'est tout d'abord pour remercier les mineurs d'avoir entendu mon appel d'il y a 10 jours.
Jules Mock, ministre de l'Intérieur.
Et les services d'ordre d'avoir témoigné de discipline et parfois d'abnégation. Mineur, dans votre immense majorité, vous avez compris que de mauvais guides vous conduisaient à la catastrophe pour des intérêts qui n'étaient pas les vôtres ni ceux du pays. Vous avez cessé d'opposer une vaine résistance aux services d'ordre dégageant les puits en vue de les sauver. Vous avez clairement vu que notre devoir vis-à-vis du pays était à la fois de défendre vos puits contre le sabotage voulu par la CGT communisée et d'assurer la liberté du travail aussi sacrée que le droit de grève. À l'heure où je parle, dans toute la France, aucun puits n'est plus occupé par un piquet de grève. Le gouvernement, en assurant la liberté du travail, a jeté bas l'édifice de contraintes et parfois de terreur que le Parti communiste dressait dans le pays.
Voilà, le socialiste Jules Moc, 60 000 CRS et soldats envoyés contre 15 000 mineurs en grève dans les 6 bassins miniers du pays. Une grève très dure, insurrectionnelle ou non, le point de vue de l'historienne Rolande Trempé.
Le gouvernement parlait de grève quasi insurrectionnelle.
Insurrectionnel, oui, bien sûr, le mot est toujours utilisé, mais insurrectionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ferait la révolution? Il n'en était absolument pas question, pas le moins du monde. Il était question pour eux, ils avaient engagé la bataille, ils voulaient la gagner, puis c'est tout. Et les mineurs tenaient au statut du mineur comme à la prunelle de leurs yeux. Pourquoi ils combattaient depuis toujours? Qu'ils avaient arraché très difficilement déjà en 46. C'était tout proche. Je crois que ça explique une partie de la virulence aussi de cette grève. Autrement dit, il y a l'agression de la part du ministère de l'Intérieur, c'est Jules Moc. D'abord, ils ont envoyé l'armée. L'armée m'est envoyée avec des mitrailleurs, véritablement du matériel de guerre. Mais il y a aussi, du point de vue des mineurs, qui sont d'anciens combattants, pour la plupart d'entre eux résistants, il y a aussi une volonté de combattre certaines, quoi. Et alors, ils vont faire des barricades. Ils vont se barricader sur les puits, mais à l'extérieur. Mais ils vont assurer d'abord la sécurité. Ce qui veut dire qu'ils autorisaient donc des équipes à descendre au fond. Pour assurer la sécurité, ça veut dire pomper l'eau. Que les mines ne soient pas ennoyées. Vous voyez ? Et puis, devant l'agressivité, quand les premières troupes, va y avoir d'abord la première occupation des troupes en Lorraine, où il va y avoir un mineur abattu, tué, en représailles contre ça, la Fédération du sous-sol va déclarer qu'elle n'assurera plus la sécurité. Autrement dit, qu'elle va laisser les puits s'ennoyer.
C'est ce qui s'est passé ?
Eh bien, il y en a eu, oui. Et alors Jules Moc va dire qu'il fait défendre ça pour protéger précisément les mineurs, car si les puits sont noyés, eh bien le travail des mineurs et les mineurs vont en pâtir. Autrement dit, Jules Moc donne ça comme explication. La grève a démarré d'accord avec FO, d'accord avec la CFTC, et à partir du moment où la CGT a déclaré qu'elle n'assurerait plus la sécurité par mesure de représailles à ce qui s'était passé aux mineurs morts en Lorraine, FO et la CFTC vont traiter séparément avec Lacoste. La CGT va donc rester toute seule et toute la direction de la Fédération du sous-sol est communiste, pratiquement. Alors, vous voyez comment il est facile de faire l'amalgame. Et c'est ça qui va déclencher le caractère si âpre de l'occupation, plus l'avenue, évidemment, l'occupation militaire du bassin. Vous voyez ? Alors, à partir de ce moment-là, la lutte, c'est une véritable guerre qu'il y a entre les mineurs grévistes et l'armée, quoi. Ah, c'était une véritable guerre.
Dans le Nord, la grève des mines continue. Le charbon ne sort plus. Et faute de combustible, on peut craindre que la production française soit menacée d'arrêt.
Actualité française, 14 octobre 1948.
Dans les chemins de fer, ébullition. À Chalon-sur-Marne, les cheminots ont débrayé. À Épernay, les trains ne passent plus. Des convois sont arrêtés, des lignes détournées. Mais le drame de la grève, c'est Merlebach. De graves bagarres ont opposé grévistes et forces de police.
Devant le puits numéro 5, il y a eu des blessés. De plus, il y a eu un mort étouffé par la foule. Un cortège compact et silencieux a accompagné à sa dernière demeure la malheureuse victime. Le problème de la grève actuelle commande l'attention nationale. Le gouvernement doit y faire face avec lucidité, avec humanité, avec décision.
La répression fut féroce. 60 000 hommes de troupes envahirent les bassins houillés de France pour mater les mineurs. Le bilan fut lourd. 6 morts, des milliers de blessés, près de 3 000 mineurs arrêtés, 1 500 emprisonnés, 3 000 licenciés et une centaine de délégués mineurs révoqués. Les prisons du Nord-Pas-de-Calais débordent de militants de la CGT et du Parti communiste. Les mineurs, héros de la reconstruction de la France d'après-guerre, deviennent, aux yeux du gouvernement, le fer de lance de l'insurrection dirigée par le Comintern. Norbert Gilmay avait 27 ans en 1948. Il était employé administratif des houillères à Mazingarbe, mais aussi le secrétaire politique du Parti communiste de Mazingarbe. Comme des milliers de ses camarades, il fut licencié, expulsé de son logement, avec sa femme enceinte et son fils de 3 ans. Toute sa vie, il s'est senti humilié, déshonoré par ce qu'il avait subi. Et avec 16 autres familles, il a mené bataille devant les tribunaux pour que cette injustice soit reconnue. Et voici quelques mois à peine, la cour d'appel de Versailles leur a donné raison en prononçant la nullité de leur licenciement. Formidable victoire que celle de la dignité retrouvée. Norbert Gilmay a aujourd'hui 89 ans et il est allé défendre la cause des mineurs grévistes devant les tribunaux. Nous le rencontrons aujourd'hui à Grenay, près de chez lui, pour revenir avec lui sur ces événements tragiques.
Je crois que la cour d'appel a été bien sage, hein, et bien légale, puisque la grève étant un droit constitutionnel, garanti en plus sans restriction par le statut du mineur, nous avions donc le droit de faire grève. Hein, une grève qui n'était pas une grève insurrectionnelle comme a voulu le faire croire Jules Moc, mais une grève pleinement revendicative. Le soutien est venu de tous les pays. John Lewis a dénoncé les méthodes totalitaires, c'était un dirigeant syndical américain, les méthodes totalitaires du gouvernement français, ce qui nous ramène à ce que j'ai déjà dit, il y a eu terrorisme contre les mineurs.
Terrorisme ?
J'ai dit terrorisme, je l'ai écrit au ministre, et je l'ai rappelé devant la cour d'appel de Versailles. J'ai dit, Jules Moc, il voulait tout de suite créer la peur. Et au quatrième jour de cette grève, le mineur Jean Sec était massacré. Non pas tué par une balle perdue, ou une balle même tirée directement. Il était massacré sur place, à coups de crosse, par des CRS déchaînés. Pourquoi ? Quelques jours après, on le savait, on avait fait croire à ces CRS que la population lorraine était hitlérienne. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à l'époque, moi qui ai eu mon oncle massacré par les Allemands, un neveu de 22 ans fusillé à Arras. Est-ce que j'aurais été pris si j'avais été CRS dans cette hystérie guerrière ? C'est bien Jules Moc qui avait choisi la force, la violence. Il voulait faire peur. À Versailles, j'ai rappelé...
Vous étiez présent donc à l'audience ?
J'ai été à toutes les audiences des prud'hommes et à l'audience de Versailles, j'étais présent.
Et donc, vous avez accusé, devant les tribunaux, l'État de terrorisme.
J'ai dit, j'accuse l'État de terrorisme. Et aujourd'hui, j'ajoute, il y a eu la torture. J'ai fourni au juge, à Versailles, la barrette de Léon Léglise. La barrette, c'est le couvre-chef des mineurs. C'est du cuir, c'est très dur. C'est pour les protéger, c'est un casque. Et j'ai posé cette barrette de Léon Léglise... Léon Léglise, c'était un résistant de la première heure. Il avait participé à la grève de mai-juin 1941 contre l'occupant. Il a donné ses dernières forces dans la bataille du charbon. On a appelé les mineurs à redoubler d'efforts pour fournir le charbon, pour remettre toute l'industrie française. Parce qu'à l'époque, l'industrie française marchait à l'électricité, mais l'électricité fournie au charbon. Des usines marchaient même directement au charbon. Il n'y avait pas d'autres ressources. Et l'industrie française a été remise sur pied très rapidement grâce au sacrifice des mineurs. Parce que c'était dans des corps affaiblis par les privations de la guerre.
Et alors, Léon Léglise, il avait participé donc à tout ça ?
Léon Léglise a participé à cette bataille du charbon. Il n'a pas pu la continuer jusqu'au bout parce que silicosé, par décision médicale, il avait tant qu'été remonté au jour. Il avait un travail au jour, vous saisissez, hein, à la surface. Donc, ouais. Il ne descendait plus dans les poussières du fond. Et à l'issue de la grève s'est terminée le 29 novembre officiellement, Léon Léglise avait repris le travail en punition parce qu'il avait fait grève. On l'a remis au fond. Et j'ai fourni donc au juge la barrette de Léon Léglise et l'article de presse de 1948 qui indiquait qu'on avait remis Léon Léglise silicosé au fond de la mine, qui indiquait aussi qu'à Bruay-en-Artois, on avait remis des silicosés à la benne. À la benne, c'est directement à la production du charbon. On fait du charbon et on remplit une benne. Alors, ce sadisme gratuit, c'était vraiment plus que la torture, et je l'ai dit au juge.
La justice a fini par leur donner raison, mais il aura fallu pour cela attendre 60 ans.
RTL, 11 mars 2011.
17 anciens mineurs du Nord-Pas-de-Calais avaient été licenciés par les Charbonnages de France pour avoir fait grève à l'automne 1948. La cour d'appel de Versailles a fini par reconnaître que ces licenciements étaient discriminatoires et qu'il n'y avait pas lieu de faire jouer la prescription, même longtemps après les faits. Et au fond, cette victoire est amère pour les mineurs.
Sur les quelques 3000 gueules noires licenciées à l'époque pour fait de grève, seuls 17 se battaient encore pour obtenir réparation. Les familles vont chacune recevoir 30 000 euros de dommages et intérêts, une somme qui ne compensera jamais le déclassement social de ces mineurs.
Bon, je m'appelle Thiénot Grimbach et je suis avocat depuis bien longtemps. Et quand j'étais petit, on continuait à dire que le militantisme, c'était la jeunesse du monde. Donc ça va, on continue comme ça, c'est bon.
Ce qui est exemplaire dans l'affaire de ces mineurs de 48, c'est de jamais lâcher l'os, de dire tant qu'on ne nous reconnaît pas dans notre dignité, on va lutter. Et Norbert, il vit là-dedans, lui. Mais alors, bon, il a été extraordinaire, c'est à la cour d'appel. Donc à la cour d'appel, on a plaidé, et à la fin, la présidente de la cour d'appel, elle a dit « Est-ce que l'un d'entre vous veut prendre la parole ?» Et lui, il s'est levé, et il avait préparé un texte, et il a pris la parole pendant 3/4 d'heure. Tout, il a tout dit. Mais il a commencé en disant « Bon, ben je sais qu'on va perdre, hein, parce que vous êtes aux ordres du capital. Je sais qu'on va perdre et que vous allez faire ce qu'on demande de vous, etc. » Et les trois magistrats, ils ouvraient les yeux comme des billes. Et la présidente, la pauvre, elle a dit, au lieu de lui dire « Mais écoutez, c'est vous », elle lui dit « Mais non, comment vous... » Et elle a commencé à lui expliquer non, que la justice était indépendante, qu'il pouvait... qu'il serait jugé en fonction de ce que pensaient les magistrats. Voilà, donc c'était un moment comme ça, étonnant dans une audience où sa présence valait symbole, quoi. Un symbole de la vie, pas un symbole de l'ancien temps. C'est un symbole d'aujourd'hui, ce vieux-là. Je dis ce vieux, moi j'ai 73 ans, donc je ne devrais pas dire ça, mais il est plus vieux que moi, et il est debout. Le dernier des Mohicans, c'est celui qui continue. Donc il y aura toujours un Mohican avec nous. Et eux, c'est nos Mohicans.
Demain, on continue. Merci à Thiénot Grimbach, Norbert Gilmet, Rolande Trempé, Colette Lebrun, Éloi Vasseur, Cyril Fruchard, Alain Duty. Merci. C'était un reportage de Charlotte Perry. Merci aussi à Catherine Louis. De l'INA, vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, Coy Nguyen et Franck Allerer ont réalisé cette émission, assistés d'Agnès Le Bot et Marina Touillez. Attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
France 2 et France 5, partenaires de l'exposition Manet, inventeur du moderne, jusqu'au 17 juillet au musée d'Orsay. Plus qu'une rétrospective monographique, Manet, inventeur du moderne, entend explorer et éclairer la situation historique d'Édouard Manet entre l'héritage réaffirmé du romantisme, l'impact de ses contemporains et le flux médiatique de son époque. Nocturnes exceptionnelles jusqu'à 21h45, du mardi 12 au dimanche 17 juillet. Retrouvez l'exposition Manet, inventeur du moderne dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter, partenaire de la 8e édition du Lille Piano Festival, les 17, 18 et 19 juin, organisé par Jean-Claude Casatsu et l'Orchestre National de Lille. À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Liszt en 2011, une trentaine de pianistes invités rendent hommage au compositeur. Récital, concerto, jazz, spectacle jeune public et cinéma. Et retrouvez Lille Piano Festival dans le Carrefour de l'Odéon le vendredi 17 juin à 16h. Renseignements sur franceinter.com.
Voilà, demain on continue avec l'histoire de la grève des mineurs de 1948 et cette histoire stupéfiante, cette, comme disait Tino Grimbach, il faut jamais lâcher l'os. Quand je donne du pain aux pauvres, on me dit « vous êtes un saint ». Quand je demande pourquoi ils sont pauvres, on me dit « vous êtes communiste ». Vous connaissez cette phrase de Don Elder Camara. On se retrouve demain à 15h pour la basse, si j'y suis. Les infos, Julie Gacon, salut.
Bonjour, le gouvernement grec assume ses responsabilités et continue d'avancer. Georges Papandréou inflexible face aux dizaines de milliers de personnes venues manifester contre les mesures d'austérité. Plus de 30 000 personnes et autant de trompettes, casseroles et sifflets cet après-midi sur la place Syntagma. Une chaîne humaine s'est formée autour du Parlement où les députés sont censés examiner tout à l'heure un nouveau plan de rigueur, des économies sévères pour décrocher une rallonge au prêt accordé en 2010 par l'Union européenne. Au Portugal, le nouveau Premier ministre promet de former très vite un nouveau gouvernement et de répondre au plus vite à l'urgence de la crise. Pedro Passos Coelho succède officiellement à José Socrates. C'est un libéral de centre-droit qui n'a jamais participé à aucun gouvernement et qui doit donc réussir ce sur quoi son prédécesseur a échoué. La mise en œuvre d'un plan de sauvetage financier négocié avec l'Union européenne et le FMI. Une nouvelle victime de la bactérie E. coli. L'Allemagne enregistre le 37e décès depuis le début de l'épidémie. Cette fois, c'est un homme de 90 ans, qui vivait en Hambourg. Il y aura bien un procès médiator, sans doute au printemps 2012. La Cour de cassation vient d'accélérer les choses en refusant de regrouper les procédures à Paris, comme l'avait demandé le parquet général de Versailles, sur instruction du ministère de la Justice. Les trois citations directes déposées à Nanterre seront donc traitées à Nanterre. Un premier procès pénal des laboratoires servi en perspective pour tromperie aggravée pour les victimes qui avaient saisi la justice de Nanterre. C'est une première victoire. L'un de leurs avocat Charles-Joseph Houdin.
Les victimes qui se sont engagées dans cette procédure dès le mois de janvier 2010 sont extrêmement soulagées que ce procès puisse avoir lieu rapidement et elles étaient terrifiées à l'idée que les choses soient renvoyées au calende grec dans une dizaine d'années peut-être. Je pense que la Cour de cassation est d'une maturité très importante et elle a compris que les arguments qui étaient invoqués par le parquet n'étaient que des arguments de pure forme et qui cachaient en réalité une décision politique. Le gouvernement ne voulait pas que cette procédure ait lieu et la Cour de cassation ne s'est pas laissée piéger et elle dit très bien l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne justifie pas que ce renvoi soit ordonné.
Propos recueillis par Élodie Guéguin, la date exacte de l'audience sera fixée fin septembre. Dans l'affaire du médiator, toute la chaîne médicale a été montrée du doigt pour sa réaction tardive. L'antidiabétique n'a été retiré du marché qu'en 2009. Désormais, les patients pourront désormais déclarer eux-mêmes les effets indésirables des médicaments. C'est ce qu'annonce l'AFSAPS, l'agence du médicament, elle aussi critiquée dans cette affaire. Jusqu'à présent, il fallait passer par un médecin ou une pharmacie. Désormais, vous pouvez trouver un formulaire de déclaration sur le site de l'AFSAPS, afsaps.fr, ce qui n'empêche pas au contraire de consulter quand même un médecin. Le projet de loi sur la psychiatrie examiné une dernière fois par les sénateurs avait un vote a priori sans encombre dans la soirée. Le texte a été rédigé peu de temps après le meurtre en 2008 d'un étudiant grenoblois par un homme déséquilibré. Les psychiatres, rejoints plus tard par les associations de malades, dénoncent un texte sécuritaire qui, entre autres, rend les sorties de l'hôpital plus difficiles qu'auparavant et donne davantage de pouvoir aux directeurs d'hôpitaux. Enfin, les députés viennent d'approuver la nomination de Dominique Baudis au poste de défenseur des droits. À l'instant, l'intéressé dit qu'il se voit indépendant, mais pas imprécateur vis-à-vis des autorités. C'est d'ailleurs Nicolas Sarkozy qui l'a choisi.
Tous les jours.
Qu'est-ce que tu veux, misérable ?
À partir de 11h.
Je voulais vous demander votre avis sur Jane Birkin.
Le fou !
du roi.
Stéphane Bern.
Quand je vois ce qu'elle porte, je me dis, c'est pas une penderie qu'elle a, c'est un charnier vestimentaire.
Pour assister au prochain Fou du Roi, en direct du studio 106, avec Maxime Le Forestier et Corinne Lepage, rendez-vous demain jeudi dès 10h devant la porte B de la Maison de Radio
Les
France.
Les curieux vont aller se renseigner.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi, tous les jours sur France Inter, à partir de 11h. France Inter. France Inter.
La différence.
À 16h04 sur France Inter, vous avez rendez-vous au carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Julie.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. J'ai deux invités très prestigieux aujourd'hui. Nathalie Rapaport, qui est directrice du Festival de Saint-Denis. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Donc vous êtes non pas une nouvelle arrivée, parce que vous avez travaillé avec Jean-Pierre Lepavec, ex-directeur qui est arrivé, on est très content de ça d'ailleurs, à la direction de la musique à Radio France, mais vous avez été à ses côtés pendant très longtemps, donc pas de problème, vous connaissez la maison. Et puis et tous ses concerts, bien sûr. Alors vous allez nous accompagner pendant cette émission pour citer quelques grands moments. Ils sont tous grands, on va dire. De toute façon, déjà les lieux, la cathédrale, c'est immense, à Saint-Denis, un peu au nord de Paris. Et puis, avec nous aussi, le maître Semyon Bichkov, chef d'orchestre. Bonjour Semyon.
Bonjour.
Alors, on se connaît depuis longtemps, parce qu'on avait fait une émission de télévision ensemble, pour, à l'époque, FR3, c'était en 90 à Paris, avec l'Orchestre de Paris que vous avez dirigé. Vous avez une carrière gigantesque, en passant par Buffalo, l'Orchestre de Paris, le Saint-Pétersbourg Philharmonique, le Met Musical de Florence, l'Orchestre de Cologne, le VDR, Symphonie Orchestra, l'Orchestre de l'Opéra de Dresde, les Semper Opera. Et puis, vous êtes invité cet été aux Proms, fameuses Proms, les fêtes musicales à Londres, qui drainent des milliers de mélomanes. Vous avez le Requiem de Verdi, donc, à diriger. Electra de Strauss au Théâtre Real de Madrid. Vous serez au Met de New York pour Otello Rigoletto du même Verdi. La Femme sans ombre vous attend. Richard Strauss en 2012. N'en jetez plus, des dizaines et des dizaines de disques, des prix partout. Donc, on est particulièrement heureux de vous avoir aujourd'hui. D'autant plus que vous dirigez demain le fameux Requiem de guerre de Benjamin Britten, le War Requiem. Alors c'est, évidemment, vous discutez avec le Festival de Saint-Denis pour savoir quelle œuvre vous allez choisir. Et est-ce que c'est une passion pour vous depuis longtemps, ce Requiem? Ou bien c'est, vous êtes dit, peut-être cette cathédrale est tellement gigantesque, ce sera magnifique. Comment ça s'est décidé, cette histoire-là?
C'est vrai que c'est une passion qui date très très longtemps. Je le dirigeais pour la première fois ici à Paris, avec l'Orchestre de Paris, à l'époque quand j'étais leur directeur musical. Ensuite, j'ai dirigé ça aussi à Munich avec Radio Bavaroise. Et depuis, j'ai quitté cette œuvre pendant 20 ans, je ne l'ai pas touchée.
Ah oui.
J'étais ailleurs, je faisais d'autres choses. Et dans les dernières quelques années, je me suis dit, il faut retourner à cette œuvre parce qu'il reste toujours actuel.
Oui. C'est, on va en parler, on va l'entendre en partie tout à l'heure aussi, parce que c'est une sorte d'enterrement de la guerre, de deux guerres. Ça vient après la première et la deuxième guerre mondiale. C'est sur le texte d'un soldat qui a été tué à l'âge de 25 ans, juste avant l'armistice, avant la défaite de l'Allemagne. Et donc, c'est tout à fait bouleversant. Mais, on va commencer par un de vos disques, le tout premier que vous avez gravé avec l'orchestre de Cologne, VDR, c'est-à-dire, c'est l'orchestre de l'Allemagne de l'Ouest, hein, Ouest Deutsche Rundfunk, c'est bien ça, hein.
Exact.
Vous avez dirigé, vous avez plein d'enregistrements avec. Et voici, on peut dire peut-être qu'un chef d'orchestre, c'est un héros en quelque sorte. Il faut avoir une charge importante sur les épaules, très souvent, un groupe en face de soi, pas toujours facile, on le sait. En France, ça se dit particulièrement. Enfin bon, et voici votre version, Semyon Bichkov, de ce portrait, le héros de Richard Strauss.